Donc on arrête ce magicien noir, et pour un temps, ces pratiques sanglantes s'arrêtent. Bon, mais malgré tout, ça recommence. Ça, c'était en l'an 033. Donc, quand on arrive donc, dans les années justement de Christophe Colomb, 15 siècles plus tard, ça a recommencé à fond. Voilà. Bon. Donc le problème était, pour les bonnes forces, comment faut-il faire pour arrêter de nouveau tout cela? Parce qu'évidemment, si ces pratiques venaient sur l'Europe, eh bien, l'humanité était perdue. Donc il fallait arrêter tout ça. Donc la question est ouverte. Comment les bonnes entités ont fait pour arrêter ces pratiques définitivement? Alors, il faut revenir donc en 1240-1250, et là, il y a un couple de marchands. D'abord, c'est le père et son frère qui font un voyage jusqu'en Inde. Des marchands vénitiens qui font un voyage jusqu'en Inde par voie de terre, enfin en partie par mer, ils sont allés jusqu'au fond de la mer Noire, et après ils sont allés à pied, et puis ils sont revenus de là. Et là où ça commence à devenir intéressant, c'est que quand le père est parti, il est revenu 27 ans plus tard. Son fils avait justement cet âge là puisqu'il était né en son absence. Et donc le fils, au récit du machin, etc., a dit « je vais faire la même chose ». Il a fait en mieux. Il est parti aussi avec un ami, enfin, je ne sais plus si c'est son frère ou peu importe, mais là où ça devient super, super juteux, donc Marco Polo, marchand vénitien, et il arrive jusqu'en Inde, plus qu'en Inde, au centre de l'Inde, oui, je ne sais pas où exactement, jusqu'au palais de Kublai Khan. Bon, donc c'est... où est-ce que ça peut se trouver actuellement? Enfin bon, quelque part en Mongolie. À ce moment-là, la Mongolie était un grand empire, et c'est eux qui avaient colonisé l'Inde. Après, c'est l'Inde qui a colonisé la Mongolie.
Était en Chine, en fait.
C'était la Mongolie. Enfin bon, c'était des forces mongoles, en tout cas. Oui, c'était maintenant en Chine, parce que la Chine a plus ou moins, enfin les frontières ont changé. Mais à l'époque, c'était quand même des forces mongoles. Enfin, quoi qu'il en soit, il arrive jusqu'au... Donc, alors imaginez-vous ce Vénitien avec son ami, je sais pas, je crois que c'est son frère, je suis pas tout à fait sûr. Il arrive là-bas, à pied, avec des lettres de recommandation, bien entendu. Ils étaient assez bien reçus, ces gens-là, parce qu'il y avait un certain commerce, ils apportaient des choses nouvelles et tout. Donc, il a appris le mongol, il a appris le chinois, il parlait l'arabe, il parlait toutes les langues des pays qu'il a traversés. On voyageait lentement, et avec chameau, machin et tout ça. Il apporte certaines marchandises, et surtout, il apporte certaines connaissances. Et là, le Kublai Khan, il apprécie énormément, donc parce qu'il lui arrange tout de suite, d'entrée de jeu, il lui arrange une affaire assez délicate, politiquement, avec des gens enfin, qui s'aimaient, qui ne s'aimaient pas, etc. Et alors le Kublai Khan voit que c'est un homme intéressant, et il le garde donc dans son palais, et il y reste 27 ans, je crois, 24 ou 27 ans. Il lui reste, donc il devient ministre des Finances. Le papier monnaie était inventé, c'est pas lui qui l'a inventé. Le papier monnaie était des feuilles d'écorce qui servaient de papier monnaie. Donc le papier monnaie, déjà 12e siècle, là-bas, alors qu'en Europe, on ne savait pas du tout ce que c'était. Et l'or affluait donc en Asie. Vous savez, l'or va toujours en Asie. L'or va vers le soleil levant. Maintenant aussi. Vous savez que l'or, actuellement, il atterrit en Chine. Aujourd'hui. Il atterrit en Chine, dans les coffres en Chine. Et par exemple, en Chine, eh bien, dans la rue, il y a des distributeurs d'or. Voilà, vous mettez des pièces de... Enfin, des billets, je ne sais pas trop quoi, enfin, ce qu'ils ont, et vous... Bah, comme ici, on peut avoir une boîte de Coca-Cola, là, vous avez des pièces d'or. Donc, on favorise la thésaurisation de l'or par les citoyens, et les banques centrales chinoises sont en train, actuellement, d'acheter de l'or. Bon, et l'or se stocke là-bas, c'est comme ça.
C'est un mouvement, parce que pour l'instant, ils n'en ont pas beaucoup, mais ça démarre.
Ça démarre. Enfin, je veux dire qu'il y a un mouvement de l'ouest en est, l'or cherche le soleil levant. Voilà. Et à l'époque, donc, il s'accumulait chez Kublai Khan, qui ne... C'est intéressant, le but de mon histoire, c'est quand même de réfléchir sur l'or. Hein. Eh bien, donc, cet or, comme il ne sert à rien, l'or ne sert à rien, à personne. C'est ça qui est intéressant. C'est une réserve de valeur que nous tenons pour une valeur suprême, pour la valeur avec un V majuscule, alors qu'en fait, il ne sert à rien. Oh, hormis un petit peu en dentisterie, un petit peu en informatique pour les contacts, mais en fait c'est minuscule par rapport au... Même en dentisterie, on l'abandonne. Bon, et puis on n'envoie pas des satellites tous les jours dans l'espace, donc avec des contacts en or. Bon, et puis il y en a un peu dans les portables, je ne sais pas quoi. Enfin, de toute façon, l'utilisation industrielle de l'or est tout à fait minime par rapport aux quantités d'or qu'on brasse, et l'essentiel de l'or ne sert à rien. Oui, les bijoux, mais enfin, un bijou n'est pas fonctionnel. C'est pour faire joli. Voilà. Et c'est une réserve de valeur, dans la mesure où l'on considère que c'est une réserve de valeur. Bon. Donc, ce Kublai Khan qui a eu l'idée de papier-monnaie, eh bien, il thésaurisait son or, et tout le toit de son palais était couvert avec des plaques en or. Bon. Alors, évidemment, ça a beaucoup frappé notre ami Marco Polo, qui s'est dit... quand même, de l'or sur le toit, bon, donc il était ministre des Finances, donc il était bien placé pour vérifier le bien fondé du trafic de l'or, enfin, etc., comment ça fonctionnait et tout ça, et il était en même temps chef de la flotte, amiral de la flotte. Bon, hein, c'est un homme avec beaucoup de compétences, il parlait une dizaine de langues, et bref, il avait le mal du pays, il voulait revenir chez lui à Venise et tout ça. Et puis, l'autre ne voulait pas le laisser partir, un homme aussi précieux. Et voilà qu'heureusement, il est arrivé une histoire de mariage. Il fallait absolument ramener une princesse, donc Kublai Khan, avec laquelle il voulait se marier. Et puis, cette princesse était aux mains de gens qui ne s'aimaient pas. Enfin, il y avait tout un tas de trucs. Et donc, on envoie encore une fois Marco Polo à réussir cette aventure de ramener la princesse. Il a mis 2 ans pour la ramener. Quand il est arrivé, Kublai Khan était mort. Mais enfin, c'était pas grave, son fils l'a épousée. Et finalement, il a obtenu l'autorisation de rentrer chez lui. Alors, il revient par voie de terre, il arrive à Gênes, et il est pris, comme c'est un bon marin, il est pris dans un navire de guerre, là où va venir, je ne sais plus, il arrive, bon, enfin le fait est qu'avant d'arriver chez lui, il est pris sur un navire de guerre, dans une guerre maritime entre Gênes et Venise et d'autres villes, son navire sombre, et il est fait prisonnier. Vous voyez, les complications qu'il a fallu pour arriver à ce point fondamental, vous voyez, karmiquement, c'est ça qui est intéressant. Je vous parle de la chaîne karmique, c'est ça. On est dans une situation extrêmement intéressante. Donc il a fallu qu'il y ait eu ces marchands qui sont allés jusqu'au Cipango, hein, qui était le nom donc de la Chine et du Japon. Cipango et Cathay. Cathay pour la Chine et Cipango pour le Japon. Donc, il a fallu ces marchands qui sont allés là-bas, qui ont vu des tas de choses, qui ont vu surtout l'or qui s'accumulait sur les toitures. Bon, ça frappe quand même l'imagination. Bon. Parce que, bon, nous, on voit Le dôme des Invalides, bon, mais on sait que c'est vachement fin, hein, la dorure du dôme des Invalides. Mais si mon toit, à moi, il était couvert par des plaques de 2 cm d'épaisseur, bon, sans parler qu'il faudrait faire d'une charpente considérable, on se poserait des questions. Bon, donc, vous voyez, je veux dire ça. Alors, ce marchand de Venise revient à travers des tas d'histoires, etc. Et avant de rentrer chez lui, il est fait prisonnier. Bon, ce point devient ici critique. Ce monsieur, qui a vu le monde entier, il est en prison. Et qu'est-ce qu'on fait en prison ? Eh bien, on s'ennuie. C'est la première des choses. Donc, il y a là un autre bonhomme qui, lui, s'ennuie aussi. Et donc, Marco Polo lui raconte ses aventures. Voilà. Et l'autre a dit, ben, voilà, eh bien, je vais prendre des notes. Donc, il a pris des notes. Dans le langue qu'il connaissait, qui était du pisan, un italien de Pise, un pisan mélangé au français et au latin, donc qui était un petit peu difficile à lire. Et il fait cet ouvrage, bon, qui, quand Marco Polo sort de prison et tout le monde est libéré, eh bien, cet ouvrage est publié. Et là, ça devient un best-seller. Ça devient un ouvrage que tout le monde s'arrache. Il est traduit dans toutes les langues européennes. Encore aujourd'hui, on en possède plus de 120 exemplaires dans des langues différentes. Il décrit donc ce qu'il a vu. Il ne parle pas tellement de lui-même. Il décrit surtout donc le Catay et le Cipango, où les toitures sont en or. Ça impressionne quand même. Alors cet ouvrage qu'on a appelé le Livre des Merveilles, ou le Devisement du Monde aussi, mais principalement le Livre des Merveilles, qui est traduit dans toutes les langues, sur toutes les cours de l'Europe, enfin tout le monde le veut. Voilà. À l'époque on traduisait, on écrivait à la main, c'est pas François. Bon. Donc 120 ouvrages qu'on a encore aujourd'hui, depuis donc 1250 à peu près. Donc vous voyez le nombre de livres qui circulaient. Donc ça avait frappé l'imagination, c'est ça que je veux surtout vous dire, que ce livre avait frappé l'imagination d'un pays lointain où le palais, les toits sont en or. Bon, puis on a un peu exagéré, mais ça c'était vrai. Après on a un peu rajouté, évidemment, au fil des copies, on en rajoutait un peu, on a fini par dire que même les rues étaient pavées d'or. Bon, ça c'était faux. Bon. Donc, voilà ce livre des merveilles qui est depuis 1450 ou 70, etc., circule comme ça de main en main, même dans la plus haute société, puisque les rois et les reines en avaient des exemplaires, étaient traduits en anglais, en allemand, etc., mais dans toutes les langues locales. À ce moment-là, il n'y avait pas l'anglais, l'allemand, c'était chaque pays avait une cinquantaine de dialectes différents. Donc, ce point est là, et qui va le lire, qui va le lire, eh bien vont le lire évidemment les marins portugais, en particulier ils vont être très intéressés par cet ouvrage qui a déjà 200 ans à ce moment là qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe là-haut dans le conseil des dieux? Il fallait créer un pays de marins qui se lancent à l'aventure. Donc, il y avait la péninsule ibérique, et là, un archange sépare ce qui deviendra le Portugal du reste de l'Espagne. Vous savez que les archanges, c'est les âmes des peuples. Un archange guide le peuple, il s'incarne dans le peuple, son incarnation, c'est dans la langue parlée. Donc là, il y a un archange qui a reçu mission du Conseil des dieux de créer un peuple de marins pour lui, et donc il le sépare dans la péninsule ibérique, et bien il sépare un morceau qui devient le Portugal, en partant du Guadalquivir à peu près, en gros, à droite à gauche, enfin bon, avec d'autres frontières, mais enfin, en gros, ça tombait assez bien. Et donc, ce peuple se met à bouillonner sous la pression de l'archange en question. Il se met à bouillonner et comment ça se traduit sur le plan terrestre? Eh bien, sur le plan terrestre, Henri, donc, que l'on a appelé Henri le navigateur par la suite, donc, il en a assez des razzias, parce que là, je vais ouvrir une parenthèse qui va peut-être pas plaire à certains, mais il en reste que c'est la réalité. Actuellement, tout le monde dit « Ah oui, les colonies françaises en Afrique du Nord, etc. Les méchants français sont allés les coloniser. Les pauvres arabes qui ont subi la colonisation, etc. » Eh bien, d'où c'est parti, c'est que les pauvres arabes, eh ben, c'était eux qui faisaient des razzias sur les côtes européennes. Et donc la meilleure façon d'arrêter les razzias, c'était d'aller les conquérir.
Et la colonisation.
Et la colonisation a suivi.
Il y a eu cette cause motrice là, en fait, cette motivation.
Oui. On est d'accord. Donc cette colonisation a eu pour but d'arrêter les razzias. Donc le Portugal, qui entre autres, puisqu'on parle du Portugal, subissait les razzias des côtes qui partaient de Mauritanie, du Maroc. Non, la Mauritanie, c'est plus bas. On y reviendra, mais je parle du Maroc. Enfin, de ce qui est aujourd'hui le Maroc, ça portait d'autres noms. Eh bien, ils ont dit, bon, ben, on va coloniser le pays. Et ils ont donc colonisé une ville qui est le Ceuta, qui est toujours, actuellement, qui est toujours espagnole, en fait, ou portugaise. C'est portugaise.
Espagnole.
Espagnole, oui. Merci. Et donc... donc il est resté, enfin bon, bah, maintenant tout le monde discute là-dessus. Bon, mais le fait est que...
Ceuta y Melilla.
Oui.
Melilla aussi, oui.
Et donc ce fameux Henri le navigateur, il avait la chance d'avoir des architectes navals de qualité qui ont apporté des idées totalement nouvelles pour l'architecture des bateaux, en particulier le safran, enfin ce que communément on appelle le gouvernail, et la modification des voilures, sans rentrer dans des détails techniques, ces bateaux pouvaient remonter au vent beaucoup mieux que les bateaux de l'époque. Voilà, remonter au vent, c'est-à-dire aller contre le vent. C'est super important, parce que les bateaux de l'époque ne faisaient qu'aller dans la direction du vent. Donc il a des bateaux techniquement évolués, et un désir, justement, on en revient à ce livre, La Merveille, le livre des merveilles, à ce livre d'avoir de l'or. Bon, alors, il s'est dit, il faut descendre la côte. Il n'y avait pas d'autre solution. Donc, il conquiert comme ça, petit à petit, en descendant la côte, qui est devenue maintenant, le Maroc, et puis après, il y a encore des... Et alors, les Portugais laissaient des bases derrière. Chaque fois qu'il allait quelque part, il laissait une base. C'était un truc pour eux, pour pouvoir donc affirmer un peu leur présence dans le pays. Donc ils sont descendus comme ça, ils trouvaient plein de trucs intéressants, mais toujours pas d'or. Bon, alors, donc, mais l'or venait par des caravanes et tout. Alors ils se sont dit, bon, l'or est plus loin, donc on va descendre plus loin. Donc ils sont allés en Mauritanie, ils sont allés en Afrique noire, ils sont allés au Congo, enfin ce qui est devenu le Congo encore une fois. Donc chaque fois, ils descendaient un peu plus, ils trouvaient plein de marchandises, plein de trucs intéressants, toujours pas d'or, enfin pas dans les quantités qu'ils espéraient. Donc, il envoyait constamment des bateaux, avec constamment l'idée de conquérir cet or. Hein. Ça restait présent, et jusqu'à un des navigateurs qui a réussi... donc à doubler, bon je vous en parle dans le bouquin là, il a réussi donc à doubler le cap de Bonne-Espérance sans toutefois s'en rendre compte. Bartolomé Diaz, voilà, il est parti avec, lui il a eu une bonne idée d'ailleurs, c'est comme les Américains qui sont allés sur la Lune en laissant des bagages derrière soi. Pas à peine d'amener tout le bazar. Il est arrivé jusqu'au sud de l'Afrique, et puis il a laissé un des deux bateaux à l'attendre, avec nourriture, eau et machin, en se disant, c'est pas à peine de l'emmener plus loin, Donc il est parti léger, ce qui lui a permis d'aller jusqu'en Inde et de fonder Goa. Voilà. Donc qui était également une ville portugaise de l'époque. Maintenant, elle est colonisée par les Russes. C'est une autre chose. Voilà. Oui, oui, il y a des Russes. Enfin, c'est théoriquement indépendant, ou je ne sais pas trop quoi, mais en tout cas, c'est un grand casino russe. Bon, mais on s'éloigne du sujet. Donc, il a fondé Goa, et il est revenu, il a retrouvé son bateau chargé de vivres au bon endroit. Sur les marins qui restaient, il n'y en avait plus que 3 de vivants. Les autres sont morts, et sur les 3 de vivants, il y en a un qui est mort de joie en voyant le bateau arriver. Donc, il y en a un de moins. Il a survécu, et puis, quand il a vu le bateau arriver, ça lui a fait un tel choc que le pauvre y est passé. Bon.
Comme le chien de vice.
Donc voilà, bon, enfin, il a retrouvé ses vivres et tout, ce qui lui a permis de revenir au Portugal en racontant. Alors vous voyez, les choses s'enchaînent. Il a dit, il y a un passage, on peut passer jusqu'en Inde. Bon, alors, donc le livre, Le Merveille du Monde, donc qui excitait tout le monde, on ne faisait que parler d'or, bon. Les toits sont couverts en or. Après, on commençait à dire que c'est les rues sont pavées d'or, etc. Bon, l'or est aussi commun que le fer chez nous, disait-on. Bon, donc il y avait ce livre qui circulait, et puis il y avait quand même des réalisations concrètes. Bon, il y avait les marins portugais qui ont réussi à aller jusqu'en Inde. Bon, et puis la terre était... la terre était ronde, en fait, on le savait depuis fort longtemps, c'est faux de... On l'a oublié, on l'a occulté, si vous voulez. Mais depuis les Grecs, déjà les Grecs savaient très bien que la Terre était ronde. Il y a un astronome grec qui, lui, pas con du tout le mec, il a compris que quand il y a une éclipse de Lune, eh bien la Lune rentre dans un cône d'ombre et on voit très bien que c'est rond. Alors il a très bien compris que c'est un cône d'ombre, que la Terre projette son ombre, et que si l'ombre est ronde, c'est que la Terre était ronde. Donc il en a déduit ça le plus facilement du monde. Donc déjà, des Grecs, on savait que la Terre était ronde. Enfin, on soupçonnait que la Terre était ronde. Bon, et puis, donc voilà qu'il y a un homme qui s'intéresse particulièrement au problème. Un homme obstiné qui veut absolument découvrir ce chemin. Bon. Cet homme, d'une moralité douteuse, mais d'un courage sans bornes et d'une obstination forcenée, à savoir Christophe Colomb, il a volé quelques cartes au roi du Portugal, il avait accès à la cartographie de la couronne du Portugal, il présente son projet au roi du Portugal qui n'en veut pas, il le représente à François Ier qui n'en veut pas, il le présente à Henri VIII d'Angleterre qui n'en veut pas, bref, il le présente à l'Espagne qui, sur le coup, ne voulait pas, mais enfin bon, finalement, à force de présenter le projet, Isabelle d'Espagne finit par l'accepter. Il réduit ses prétentions, il me dit, mais donnez-moi que 3 petits bateaux. Les caravelles de Christophe Colomb étaient toutes petites. Hein. Donnez-moi 90 marins, ce qui était très peu à l'époque. Enfin bref, il propose une expédition qui ne coûte pas très cher. Il traficote sur les chiffres. Lui, qui était un très bon marin génois, fait des erreurs de calcul grossières. Une erreur grossière. Pour démontrer que le voyage ne fera que 2000 km, 2400 km, quand il savait très bien que ça allait en faire 4000. Parce qu'il a confondu des lieux de Gênes et des lieux d'autres villes. Enfin, parce que chaque ville avait ses unités de mesure. Donc, il fait des confusions volontaires pour présenter son projet, étant donné que ceux qui l'examinaient n'y comprenaient rien. Il le savait aussi bien que ça. Donc, il les convainc qu'avec peu de mise de fonds, ils allaient découvrir donc, la route de l'or.
comme pour le tunnel sous la Manche.
Oui, voilà, voilà, voilà. On traficote les trucs pour convaincre les commanditaires. Et après, on verra.
Sinon, il n'y aurait pas de tunnel.
Sinon, il n'y aurait pas de tunnel. Donc, on dit, après, on verra. Bon, donc, le Vlac, qui part avec trois bateaux. La Niña et puis je ne sais plus lesquelles.
La Pinta et...
La Pinta et...
La Santa Maria.
Et la Santa Maria, voilà, merci. Donc, bon, vous connaissez le voyage que je décrirai sommairement. Il va lentement, hein. Il va d'abord aux îles Canaries, qui étaient déjà colonisées, et puis au Cap-Vert, qui était déjà colonisé. Et puis de là, il se lance dans le truc. Quand il arrive à moitié... Alors, quand ses réserves d'eau et de vivres sont arrivées à moitié, bah, évidemment, les marins disent « Bon, bah, maintenant, on retourne. » Il dit « Non, 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 il n'y a pas question, on va en avant. » Alors, petite discussion. Il dit « Bon, écoutez, que les marins m'envoient les chefs... de la rébellion et on va se mettre d'accord. » Il met les trois bateaux côte à côte, donc bord à bord, de chaque bateau, des deux bateaux monte un représentant du peuple et quand la discussion est finie, il appelle les autres. Bon, les deux mecs sont pendus au mât. Il dit « Bon, la discussion est finie, on s'est tous mis d'accord, maintenant on continue. » Bon, la démocratie, comment dirais-je, donc avec des moyens, avec ces moyens-là, il a continué et il découvre donc ce qu'il croit être l'Inde. Dans son livre de bord, il y a 63 fois, je l'ai noté, je ne sais plus, chose non. comme ça, l'or. Il parle tout le temps de l'or sans arrêt. Bon, alors donc, au départ, il arrive, il rencontre quelques Indiens qui échangent quelques bijoux en or contre des bricoles. Il se dit, ça y est. Et finalement, c'est un échec parce que, bon, ces Indiens avaient un petit peu d'or comme ça, mais pas en grande quantité. Et donc, le pauvre Christophe Colomb, il colonise beaucoup de choses, mais il n'arrive pas à trouver l'or. Mais la voie est ouverte. La voie est ouverte, et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'après Cristobal Colombo, eh bien, d'autres gens se précipitent. Lui, il a mal fini, mais comme vous le savez. Mais il y a d'autres personnes qui se précipitent. Parce que, justement, l'idée de l'or est là. Hein. Vous voyez, il a fallu allumer dans le... Chez les Européens, il a fallu allumer cette flamme de l'or, de l'or, de l'or. Vous voyez, il a fallu allumer cette énergie, sinon pourquoi est-ce qu'on serait allé là-bas? Alors, je résume la situation. Donc d'un côté, il y a les mystères précolombiens sanglants où l'on arrache le cœur qui ont repris, qu'il fallait absolument arrêter.
Sans le magicien noir. C'est le...
Non, bah lui, il était liquidé. Mais en tant que magicien, bon, je sais pas, il a dû se réincarner, mais enfin, en tant que force occulte, il a perdu ses pouvoirs. Bon, mais malgré tout, ses pratiques ont repris à fond. Bon. Donc, de l'autre côté, en Europe, on fait bouillir la marmite. Je parle là des divinités. Hein. On fait bouillir la marmite pour que les Occidentaux se précipitent là-bas. Et donc, on ne va pas leur donner des bons sentiments. On va leur donner des sentiments qui leur inspirent énergie et courage. Et donc, on leur dit, vous allez chercher de l'or, vous voyez. Et donc, malgré qu'au fond, au départ, on n'en trouvait pas des masses, eh bien, cette idée, à travers le livre de Livre des Merveilles, vous voyez, il a fallu tout un tas de trucs. À travers le Livre des Merveilles, eh bien, il a fallu que les gens s'embarquent pour chercher cette fameuse or.
La constitue la première croisade.
Voilà, c'était, si on veut, oui, de ce point de vue-là, oui. Alors, donc là, ici, il y a des histoires, je ne sais pas si ça vous intéresse dans le détail.
Oui.
Bon, des histoires, donc, un type assez marrant, Balboa, par exemple. À la fois, il y a un mélange de naïveté extraordinaire. C'est quand même des gens très curieux. Bon, ce Balboa qui était fils de fermier, paysan, qui a fait des emprunts et qui ne pouvait pas payer. À l'époque, c'était grave hein, de ne pas payer ses dettes. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on ne paye pas ses dettes, ce n'est pas très... ça ne se passe rien. Oui, on fait faillite ou on emprunte à la banque du coin. Bon. Tandis qu'avant, ne pas payer ses dettes, c'était la mort. Hein. On était en prison. Alors, le gars qui était en prison, d'ailleurs, il ne pouvait plus rendre ses dettes parce qu'il était en prison. Donc, il fallait que les parents et autres, s'ils le sortent de là, eh ben, il fallait que les parents se cotisent pour payer ses dettes. Sinon, le gars, il croupissait en prison. On oubliait de lui donner à manger en particulier. Et, parce que dans les prisons, on ne nourrissait pas. Maintenant, ils ont tout, le chauffage, la télé, le machin,
Doucement, je suis allé...
Oui, bon, enfin bon, c'est colonie, c'est Club Med en comparaison d'avant. Avant, on te foutait dans le trou, et puis on ne s'occupait plus du tout, hein. C'était terminé, hein. Voilà. Donc, ceci dit, bien, je suis d'accord que je n'aimerais pas y aller. Hein,
il y a un taux de suicide en prison. Vous pouvez aller faire un tour, pas en visiteur, mais en...
Donc je reviens à mon camarade
Balboa.
Balboa, oui. Alors lui, il fait un truc extraordinaire. Bon, il a toujours des dettes, et donc il fait une expédition. Une expédition, c'est parfois une vingtaine de gars. C'était pas plus. Il traverse la jungle. Et il a un flair, pas possible, enfin, parce qu'il demandait aux gens, etc. Mais ils étaient quand même, ils avaient le nez creux, bon. Et donc, il traverse la jungle dans des conditions absolument épouvantables, et au bout d'un mois ou deux, je ne sais plus, qu'est-ce qu'il voit? Il voit la mer, de l'eau. Bon, il goûte, c'est salé. Donc là, il n'hésite pas, il dit, je prends possession de tout ce qui était devenu Pacifique, je prends possession du Pacifique et de tout ce qu'il contient. Bon, c'est-à-dire que ça allait jusqu'au Japon, en passant par l'Indonésie, tout était à lui. Bon, alors, le brave homme, ça l'a pas, ça lui a pas fait payer ses dettes pour autant, même s'il a pris possession du Pacifique en entier. Alors, il y a des photos. Alors, c'était quand même publié à l'époque, c'était un grand scoop, hein, parce qu'on a trouvé une autre mer. Hein, c'était quand même vachement intéressant. On a trouvé une mer auquel on ne s'attendait pas. Donc il y a eu beaucoup de dessins, je vous en ai rapporté deux ou trois là, de Balboa, là, qui est à mi-genou dans l'eau, dans la mer, avec un drapeau portugais à la main, et qui prend possession au nom de la couronne. Du Pacifique et de tout ce qu'il contient. Bon, enfin, ça lui a pas tellement fait remplir la caisse pour autant. Et donc, on l'arrête pour dette, on lui coupe la tête. Voilà, à l'époque, il plaisantait pas. Et quel était celui qui l'a condamné? Quel était l'envoyé pour le condamner? C'était Francisco Pizarro, un autre illettré. Une autre brute illettrée, qui était un enfant trouvé, parce qu'à l'époque, on abandonnait donc les enfants au porche d'église. Il était donc un enfant abandonné, qui a été élevé comme ça, qui n'a jamais été à l'école, qui était illettré, mais pour autant loin d'être idiot. Et surtout, il avait des capacités extraordinaires en tant que meneur d'hommes, qu'énergie, etc.